Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ce programme, le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Chers auditeurs, auditrices et internautes, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous du jour dans ce magazine dédié aux jeunes et plus jeunes. Sachez que depuis 2022, une application utilisant de l'intelligence artificielle nommée ChatGPT a été lancée. Grâce à la force de son intelligence, cette application est en effet capable de rédiger des dissertations complètes, de résumer un livre ou de bâtir le plan et les contenus d'une présentation orale. En 2024, beaucoup de jeunes Congolais ont découvert cette application et l'utilisent pour presque tout, en commençant par les devoirs, interrogations, ainsi de suite. Cette application est même utilisée comme conseillère pour aider les jeunes à évaluer les risques d'une décision ou d'une action. Quels sont les avantages et les inconvénients de ChatGPT? Pourquoi les élèves et étudiants utilisent cette application? Éléments de réponse dans ce magazine Bana Okapi que je vous propose de suivre. Sarah Soumbel est à la présentation de ce magazine, mise en onde de Polydor Basunga, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matoki Mofelele d'Ijano. Toute l'équipe Bana Okapi participe à la production de cette belle émission qui s'élance tout de suite. Okapi. Le monde numérique est en pleine effervescence avec l'émergence des ChatGPT, une intelligence artificielle qui redéfinit notre manière de communiquer et d'interagir avec les machines. Mais qu'est-ce qui fait vraiment de ChatGPT un outil si révolutionnaire? Les détails avec vous, André Kitengé.
ChatGPT est une intelligence artificielle capable de générer du contenu écrit. Développé par OpenAI, il s'agit d'une bibliothèque logicielle multiplateforme qui fournit une interface de programmation audio 3D, principalement dédiée aux jeux vidéo, mais aussi à d'autres applications audio. Ce chatbot est une forme d'intelligence artificielle générative. Il peut répondre à des questions, rédiger des livres, organiser des notes, planifier des vacances ou même développer des lignes de code. Il suffit de lui envoyer un prompt, une question et ChatGPT s'exécute avec la possibilité d'adapter sa personnalité. Le nom ChatGPT résulte de la combinaison des termes chat et GPT qui signifient respectivement conversation et modèle de transduction des langages prédictifs. Cela reflète la capacité de ChatGPT à simuler des conversations humaines de manière convaincante. En effet, ChatGPT représente une avancée technologique passionnante. Capable de répondre à un nombre infini de questions, il incarne une intelligence artificielle de nouvelle génération. Son fonctionnement repose sur un modèle de langage entraîné par OpenAI, ce qui lui permet de générer des réponses uniques à chaque interaction. Ce qui distingue ChatGPT, c'est sa capacité à mener des dialogues cohérents et contextuellement appropriés, que ce soit pour aider à rédiger un poème, coder un programme informatique ou fournir des conseils en matière de fitness. Ce modèle d'intelligence artificielle est incroyablement polyvalent. Sa capacité d'apprentissage lui permet d'assimiler de nouvelles informations jusqu'en avril 2023, rendant chaque interaction aussi pertinente qu'actualisée. Cependant, ce qui intrigue le plus, c'est le potentiel futur de ChatGPT. À mesure que l'intelligence artificielle continue d'évoluer, quels nouveaux horizons s'ouvriront? Une chose est sûre, l'interaction entre les humains et les machines ne sera plus jamais la même. ChatGPT n'est pas seulement une prouesse technologique, c'est un pas de géant vers l'avenir de la communication. Avec l'aide de ChatGPT, les enseignants peuvent également concevoir et intégrer des activités de classe interactives pour améliorer leurs pratiques pédagogiques. Par exemple, ChatGPT peut créer des aides visuelles telles que des présentations, des feuilles de travail, des plans de cours et d'autres ressources pédagogiques. Pour utiliser ChatGPT, il suffit d'abord d'envoyer le chapitre que vous souhaitez apprendre au chatbot, puis de lui demander d'inventer un mini-jeu destiné à faciliter la mémorisation du contenu. Enfin, vous pouvez envoyer votre cours à ChatGPT et lui demander de vous poser des questions à l'oral sur ce sujet.
Okapi, Okapi.
À Bukavu, la plupart des jeunes qui se sont exprimés à notre micro confirment que l'application ChatGPT est d'une importance capitale. Cette application répond à toutes les questions. TP, travail de fin de cycle. ChatGPT est considéré par certains étudiants comme une formule magique. Cependant, certains jeunes reconnaissent que cette intelligence artificielle le rend paresseux et improductif. Rachel Kessembangu nous en parle dans ce reportage.
La place qu'occupe cette application chez les jeunes n'est pas à douter. C'est une application très indispensable dans leur téléphone car ChatGPT les aide pour beaucoup. Gloria Cavira revient sur cette importance dans ses études.
Si aujourd'hui nous parlons de l'avancée technologique de l'évolution, nous allons sûrement parler de l'intelligence artificielle. Nous allons parler des ChatGPT. De nos jours, c'est un sujet tellement à la une. Je suis étudiante. J'ai fait les études de sciences pharmaceutiques et l'arrivée des ChatGPT pour n'est pas globalisé pour moi a été d'une grande aide, très grande aide pour mon apprentissage, pour mes recherches. C'est vrai que l'application est toujours en train d'être mise à jour et d'être améliorée, mais si j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin d'un renseignement quelconque, je fais une recherche quelconque, je fais un travail pratique, je fais un devoir, en tout cas je pose. ChatGPT me donne toujours la solution, me donne toujours les données dont j'ai besoin, que ce soit pour des travaux, des fins de cycle, les gens utilisent ChatGPT. Et pour moi, je peux dire que ChatGPT est d'une grande aide pour les étudiants. Mais n'empêche qu'il y a aussi ces mauvais côtés-là, parce que nous voyons qu'avec cette application, beaucoup de choses, en tout cas, nous ne faisons plus seuls. Nous devenons un peu paresseux à cause du ChatGPT. Quand on a un travail, on n'a plus le temps de faire nos propres ménages, mais on veut faire travailler ChatGPT parce qu'on sait qu'on va plus trop se tracasser pour rien. Donc, il suffit juste d'avoir une bonne utilisation, ne pas abuser des ChatGPT pour toute situation, pour toute chose dont on a besoin. Il y a des choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Il y a des problèmes auxquels nous pouvons trouver des solutions nous-mêmes. Mais ayons juste une utilisation rationnelle de ChatGPT. Et ça sera vraiment merveilleux. C'est vraiment très merveilleux pour notre humanité actuelle.
Même avis que ces deux étudiantes en médecine.
Étant étudiante, l'application ChatGPT nous aide à trouver des solutions à nos TP, à nos travaux et tout ça. Mais aussi, ça a un côté très sombre parce que ça nous rend très faibles, ça nous rend paresseux. On n'arrive plus à réfléchir par nous-mêmes. On n'arrive plus à compter par notre intelligence ni par notre sagesse. On fait plus confiance. L'être humain maintenant, en 2024, fait plus confiance à l'intelligence artificielle, à Google, à ChatGPT, à plusieurs d'autres intelligences artificielles. Alors que l'homme est plus intelligent, parce que c'est seulement des robots, l'homme est plus intelligent que tout ça. Mais malheureusement, en 2024, une personne s'est dit que l'intelligence artificielle est plus intelligente qu'un être humain.
GPT, c'est une application très fiable, au fait. Pourquoi je dis que c'est une application fiable? Parce que ça nous permet, nous étant qu'étudiants, de bien faire nos recherches scientifiques. Surtout nous, dans la faculté de médecine, on a trop de cours, au fait. Ça nous permet d'élargir nos pensées, d'élargir notre façon de voir les choses, d'élargir nos recherches scientifiques pour mieux, au fait, comprendre le cours et avancer scientifiquement.
Pour Grâce, cette application vient appuyer ses idées et l'aider à développer sans trop réfléchir. Elle revient sur son utilisation personnelle.
En ce qui concerne la question de ChatGPT, moi je dirais que ça a un bon et un mauvais côté. Le bon côté, c'est quand par exemple, elle vient juste compléter ton idée et que tu as une idée, tu as une réflexion, tu as des projets, et elle vient juste compléter, arranger ton idée. Et ça nous évite de nous embrouiller, par exemple, sur certaines choses ou avoir des idées un peu éparpillées. ChatGPT nous aide par rapport à cela. Et elle s'est encore plus développée parce qu'elle nous aide aussi par rapport à nos calculs de mathématiques, comme on est étudiant. Et voilà. Sur le mauvais côté, je pense que on l'utilise un peu abusivement parce que on se laisse un peu à la fatigue, au fainéantisme, parce qu'on sait qu'on va pas trop chercher, parce qu'on sait qu'il y a ChatGPT, et qu'on l'utilise un peu abusivement sans se donner des efforts personnels et qu'on donne tout à ChatGPT. C'est là le mauvais côté, parce qu'on sait que ChatGPT nous donne tout, répond à tout, mais qu'on l'utilise un peu abusivement, c'est là le mauvais côté. Qu'on ne laisse pas la place à nous, par exemple, aux humains, de pouvoir réfléchir, et qu'on laisse tout à l'intelligence artificielle de faire tout, c'est ça qui est le mauvais côté. Mais sinon, moi je dirais que ChatGPT a un très bon côté et je l'utilise dans mon quotidien aussi.
Cette application offre des arguments très pertinents dans les débats sur plusieurs sujets. Le seul hic avec ChatGPT, selon Ryan Moitsi, c'est que l'application ne présente pas toujours les sources des informations mises à la disposition du public.
Personnellement, je trouve que ChatGPT est une grande avancée technologique du 21e siècle. Et lors des conférences et des débats, ChatGPT fournit des arguments très pertinents. Et les étudiants de fin de cycle seront d'accord avec moi que lors des travaux de mémoire, ChatGPT est souvent un outil indispensable. Mais le problème rencontré avec ChatGPT, c'est que cette application ne présente pas les sources et les auteurs de ces articles, ce qui est un problème lors de la vérification de la fiabilité de ces informations.
Emmanuela, elle aussi, est utilisatrice de cette application. Toutefois, elle appelle au bon usage de ChatGPT.
Moi, je pense que le ChatGPT, c'est une bonne application. Ça peut avoir un côté positif et un côté négatif. Vous voyez, positif dans le sens où ça peut nous aider dans nos travaux, dans nos recherches et tout, parce que j'ai remarqué que ça nous donne vraiment de recherches fiables, de réponses fiables dans nos travaux pour élargir nos connaissances, même par rapport à certains projets, ça peut nous aider à des bonnes idées aussi. Le mauvais côté, je pense que ça, étant étudiant, ça nous fragilise quelque part, intellectuellement, dans le sens où on ne pousse plus notre réflexion à aller plus loin. Nous nous limitons qu'à ça, et pourtant, étant étudiant, nous devons pousser nos réflexions encore plus loin. Voilà, je pense que c'est un bon côté, un mauvais côté. Je pense que c'est juste de savoir comment l'utiliser et faire la part de choses.
Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi. Okapi.
Grâce aux Ozolo est allé à la rencontre de quelques jeunes de Kinshasa pour leur demander s'ils connaissent l'application ChatGPT et quel type de service cette application leur rend.
Je connais très bien cette appli. ChatGPT est l'une des meilleures applis utilisées actuellement dans le monde entier. Elle nous aide à l'apprentissage virtuel de matière. Cette appli nous aide à faire nos devoirs. Comment utiliser ChatGPT? C'est très simple. Il suffit d'entrer les questions et ça vous donne des réponses. Mais l'une des choses que ChatGPT peut faire, c'est rendre les élèves inaptes. Pas seulement les élèves, les professeurs, notamment les étudiants. ChatGPT répond à tous nos problèmes. Il suffit juste de mettre la question et puis vous aurez une réponse. Ça nous rend inaptes. Et puis ChatGPT, c'est l'une des applications que tu peux utiliser sans te déplacer, sans bouger d'un pied, sans ouvrir un livre, sans aller dans une bibliothèque. Il suffit juste de faire entrer l'énoncé, vous aurez la réponse. Donc ça participe de près à la destruction intellectuelle des élèves. ChatGPT nous rend inaptes.
Bien sûr que oui, je connais l'application ChatGPT. Étant donné que c'est une application assez récente basée sur l'intelligence artificielle, elle peut résoudre des problèmes et répondre à différentes requêtes posées en temps réel comme si on était en face d'un vrai interlocuteur. Personnellement, je m'en sers souvent pour certains devoirs et pour mes révisions personnelles à la maison. Elle m'aide personnellement à l'apprentissage de certaines langues étrangères et à la génération de contenu audio ou visuel. Personnellement, je trouve que ChatGPT est une application favorable, mais aussi elle a des méfaits comme toute application. Étant donné que c'est une application qui peut vous fournir entièrement un contenu basé sur une réponse très simple, la majorité des gens s'en servent pour accomplir totalement des tâches sans pour autant recourir à leur propre mental. Des élèves qui s'en servent pour faire des devoirs et qui ne révisent plus à la maison ou même pendant les examens, des professeurs ou d'autres personnes qui s'en servent pour générer des textes ou des rapports à remettre. Donc cette application peut entraîner le retard et le manque de développement intellectuel ou même le décroissement facilement de certaines connaissances acquises au fil du temps. Je l'utilise toujours parce que personnellement, je préfère l'utiliser dans un bon sens. M'en servir juste pour m'aider, mais pas recourir à elle pour accomplir l'entièreté de mes tâches.
ChatGPT nous aide à tout faire en fait. Faire une dissertation, mais la meilleure façon de l'utiliser, c'est de mettre une question, de lui dire explique-moi comment évoluer, comment le faire. C'est pas juste de dire ChatGPT aide-moi à faire cette dissertation. Il va tout te donner, tu vois, que tu vas recopier, mais ça t'aidera à rien faire. La meilleure des choses à faire, c'est de dire ChatGPT aide-moi à faire cette dissertation. Tu montres les bases, comment je dois évoluer. Donne-moi la formule, mais aide-moi comment je peux faire pour trouver cette formule. Il suffit juste pas de mettre ChatGPT. C'est pas la meilleure façon de l'utiliser. Je l'ai trouvé sur internet, je l'ai téléchargé. Bon, je voulais tester et puis ça marchait.
Personnellement, moi, l'application, j'ai connu par ma sœur, en fait. Au départ, elle m'en avait parlé, mais j'avais pas trop tiré attention. Et quand j'ai remarqué qu'elle était vraiment utile, c'est à partir de là que je me suis dit qu'il faut que je l'utilise. Et quand j'ai testé, j'ai assez apprécié. Je l'utilise juste pour les devoirs. Étant donné que les téléphones ne sont pas permis à l'école et que durant une interrogation ou un examen, ça serait considéré comme de la tricherie, je l'utilise juste pour mes devoirs, mais pas pour me faire le devoir entièrement. Juste pour m'expliquer les bases, pour me donner certains éléments qui m'aideront à la résolution du devoir.
Personnellement, je l'utilise que pour faire mes devoirs, pour qu'il m'explique la manière dont je dois le faire. Vu qu'en revenant à l'école, sûrement je passerai au tableau pour résoudre. Voilà pourquoi je lui demande, ChatGPT, tu peux m'aider. Là où je n'arrive pas à faire, je lui dis, ChatGPT, explique-moi comment procéder pour faire ces devoirs. Mais normalement, on ne peut pas l'utiliser à l'école, vu que les téléphones sont interdits. Et pendant les examens, on ne peut pas non plus, vu que ça serait considéré comme la tricherie.
Les migrants, on les trouve souvent par rapport à l'argent qu'on nous donne pour venir avec en cours ou l'argent de poche. Et très souvent, même dans la majorité de foyers, ils ont accès au Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est facile d'avoir ce genre d'accès. D'après moi, ChatGPT freine cet esprit-là de recherche parce que c'est très différent d'aller ouvrir un livre ou de faire des recherches dans différents sites pour résoudre un problème et de juste poser la question et d'avoir directement tous les éléments dont on a besoin. D'après moi, ça retarde cet esprit-là de recherche et sur un long terme, ça peut poser problème et pour certaines personnes, ça encourage la négligence au fur et à mesure de toujours recourir à une intelligence extérieure pour venir en aide dans certains problèmes ou devoirs. Au fil du temps, on devient incapable de les résoudre nous-mêmes ou pire même de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire.
Déjà, tu vas pas bouger d'un poids sur ta chaise à utiliser ChatGPT. Normalement, tu peux sortir, aller dans une bibliothèque, ouvrir des livres, lire, faire des recherches sans l'esprit des recherches très faible. Voilà pourquoi dans plusieurs écoles, les bibliothèques ne sont pas fréquentées par les élèves. Imagine, t'es à la maison, on t'envoie un devoir, tu utilises ChatGPT, il te donne tout un effet qui est recopié. Tu viens à l'école, t'es le seul ou la seule à avoir réussi. On te dit de passer devant et de démontrer comment t'as procédé pour avoir cette réponse. C'est qu'on sort. Toi, tu n'as fait que recopier. Qu'est-ce que tu vas faire? Et à la place que ce soit juste une intelligence artificielle, vaut mieux que ce soit un enseignant.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bienvenue dans la seconde partie du magazine Bana Okapi. Ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF dédié aux jeunes et plus jeunes qui traite des sujets liés à la santé, l'entrepreneuriat, l'éducation, la protection des droits de l'enfance et l'environnement. Certains observateurs affirment que les jeunes sont de plus en plus attirés par l'intelligence artificielle, surtout via l'application ChatGPT. Nombreux sont les étudiants qui utilisent l'IA sans savoir bien s'en servir, pour leurs devoirs, leurs examens ou encore leurs lettres de motivation. Quels sont les risques à utiliser cette application et comment bien en faire usage? La seconde partie de ce magazine vous propose quelques réponses avec nos invités. Sarah Soumbel est à la présentation de ce magazine, mise en onde de Polydor Basunga, une réalisation de Gisèle Cage, sous la supervision de Jean-Marc Matokimo Felele, Dijano. Ce magazine est coproduit par Plamidimbi Avanga, grâce à vos olo Rachel Kessimbangu, Ezekiel Mouzalia, André Kitenge, Jeff Opela, Grévis Salomou, Etienne Lissumbu, Guylaine Kassassia et Stanislas Diomi. Cette seconde partie s'ouvre. Merci de votre aimable attention à ce programme de Radio Okapi financé par l'UNICEF dédié aux jeunes et plus jeunes, le magazine Bana Okapi. Nous recevons pour vous le professeur Bouiza Kinamoula Jean Damasène, docteur en philosophie sociale et politique, professeur à temps plein à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa, à Bukavu, au philosophe Isidore Bakanja. Il nous parle des moyens qu'il utilise pour détecter des réponses sorties tout droit de l'intelligence artificielle. Le professeur Bouiza Kinamoula Jean Damasène répond aux questions de Stanislas Diomi.
Professeur Bouiza Kinamoula Jean Damasène, bonjour.
Bonjour, monsieur les journalistes.
Aujourd'hui, l'émission Bana Okapi traite le sujet sur l'intelligence artificielle. Connaissez-vous l'application ChatGPT?
Oui, justement, nous connaissons cette application logicielle dit aussi intelligence artificielle AI, et qui est vraiment en vogue maintenant, auquel beaucoup de gens, pas seulement les étudiants, mais presque dans tous les domaines, ont recours pour chercher des solutions ou même des réponses à des questions qu'on se pose dans l'immédiat.
Oui, cette application qui utilise l'intelligence artificielle est considérée par certains étudiants comme une formule magique, hein, car elle répond à toutes les questions. Elle peut y être utilisée pour le TP ou effectuer un travail de fin de cycle sans mener de recherche. Quel est votre avis de cette application? Est-ce que ça aide aux étudiants de développer leur intelligence ou ça leur abaisse?
Bon, d'abord, on devrait chercher à comprendre d'abord c'est quoi l'intelligence artificielle. Moi, je n'entrerai pas dans ces débats, je dirais, très techniques. Mais je dirais tout simplement que l'intelligence artificielle n'est rien d'autre que des informations déjà codifiées ou programmées dans un logiciel, donc informatisé. Et de manière très sophistiquée, hein, c'est des mathématiques, ce sont des algorithmes donc c'est un ensemble d'informations emmagasinées quelque part. Et quand on y va, on tape ce qu'on cherche et on donne des réponses. Quelque part, on peut dire que ça peut être un outil même de travail, mais c'est un outil qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions parce que je peux dire que c'est un couteau à double tranchant. On les parle pas bien, ils risquent de nous blesser. Mais l'intelligence artificielle ne peut pas nous remplacer parce que l'intelligence artificielle ne peut pas penser à notre place, l'intelligence artificielle ne peut pas surtout imaginer à notre place. D'ailleurs, l'intelligence artificielle diminue notre capacité imaginative qui est capitale dans tout processus d'apprentissage. Donc l'intelligence artificielle diminue notre inventivité dans la mesure où ça nous donne des choses prêtes à manger, prêtes à porter. Et donc, là, il y a un grand problème quand on ne sait pas utiliser de manière éthique, quand on ne sait pas utiliser comme un outil qui peut nous accompagner, mais qui ne peut pas nous remplacer.
Un outil qui peut nous accompagner, mais qui ne peut pas nous remplacer, ça c'est très bien dit, professeur. Et est-ce qu'il y a moyen de détecter un plagiat de l'intelligence artificielle?
Oui, bon, surtout nous, on est au niveau des universités, parce que vous avez parlé des travaux de TP, on peut parler aussi des mémoires ou des TFC, recourant à des logiciels anti-plagiat, ou sur des logiciels qui peuvent nous dire effectivement ce qui vient de l'étudiant ou ce qui ne vient pas de lui et qu'il a pris, parce que ce sont des moteurs, quand on met sur Internet, ce sont des moteurs qui sont interconnectés. Alors, les textes mis sur Internet avec ces logiciels anti-plagiat peuvent nous aider à dire telle partie du mémoire ou du TP, tout ça vient de tel endroit, telle partie. Et donc, on peut découvrir que l'étudiant a plagié. Et les plagiats à l'université, c'est comme du vol, c'est punissable. Selon les travaux, et parfois, les plagiats peuvent causer même des renvois ou annulation tout simplement des travaux qui ont été présentés.
Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour décourager les étudiants à utiliser l'intelligence artificielle dans leurs différents travaux?
D'abord, pour détecter que l'étudiant a utilisé l'intelligence artificielle, bon, nous connaissons plus ou moins les niveaux de nos étudiants.
Oui.
Parfois, nous savons ce que tel étudiant nous amène. Ça peut venir de lui, ça ne peut pas venir de lui. On sait que par rapport à son niveau, il ne peut pas nous produire, par exemple, un tel texte d'une certaine qualité. Alors du coup ça devient facile de découvrir que il a recouru à l'intelligence artificielle ou autre logiciel ou qu'il a plagié. Alors, mais pour y arriver, nous devons lire les travaux des étudiants. Parfois nous arrivons chez d'autres collègues qui ont pris le temps de lire et qui détectent effectivement que ça ce n'est pas le travail de l'étudiant. Et donc, pour décourager d'abord les étudiants à recourir à ce travail, à l'intelligence artificielle, qui reste un outil très peu contrôlé et très peu transparent, nous devons lire les travaux des étudiants et se rendre compte de leur niveau. Puis on doit discuter avec les étudiants sur les travaux qu'ils sont en train de faire, de produire, pour se rendre compte si effectivement ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de nous dire. Donc, si nous mettons au travail et nous accompagnons aussi les étudiants, nous pouvons facilement arriver à les décourager. Mais aussi on recourt parfois à l'intelligence artificielle, non seulement par paresse intellectuelle, mais aussi parce que on est trop habitué à utiliser le numérique, donc l'internet pour tout travail. On ne lit plus, on ne va plus dans les bibliothèques. Il revient à nous comme professeurs et peut-être aussi effectivement aussi aux institutions universitaires de mettre à la disposition des étudiants des bibliothèques bien équipées et bien à jour pour que les étudiants puissent avoir des liens d'informations sûrs et contrôlés.
Y a-t-il de risques quand on utilise l'intelligence artificielle dans les universités?
Je pense que moi, les risques de l'intelligence artificielle, c'est d'abord rendre les gens paresseux intellectuellement.
Très bien.
Quand on est devenu paresseux intellectuellement, on ne réfléchit pas, on ne pense plus. Parce qu'on pense qu'à tout problème ou bien tout travail, nous avons quelque part, on va puiser. Et donc ça, on devient paresseux. On devient moins productif intellectuellement, on devient moins inventif, on devient moins créatif, et donc on devient moins imaginatif. Et là, c'est le grand danger. Et puis, comme je vous ai dit, l'intelligence, ce qui provient de l'intelligence artificielle est difficile à être contrôlé. On ne connaît pas aussi la transparence. On ne sait même pas citer tout ce qui vient de l'intelligence artificielle. Donc, il se peut aussi qu'on vulgarise des faussetés et qu'on prenne des faussetés pour des vérités parce que tout simplement ça vient de l'intelligence artificielle.
Quelles sont les recommandations que vous pouvez formuler aux étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle et puis au gouvernement en ce qui concerne l'usage libre de l'intelligence artificielle pour le jeune, et une recommandation aussi aux professeurs qui ne vérifient pas encore les réponses venant de l'intelligence artificielle?
Alors, d'abord, les étudiants qui utilisent l'intelligence artificielle, je répète qu'ils sont en processus d'apprentissage, de formation, et donc ils ne doivent pas se fier autant à l'intelligence artificielle, d'autant plus que c'est un outil non fiable, non transparent. Même si on peut y trouver des réponses qui semblent sophistiquées, beaucoup utilisent l'intelligence artificielle, bloquent leur processus d'apprentissage à tant que lié de créativité, lié d'imagination, et donc ça facilite plus la paresse. Je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faut l'utiliser de manière responsable. Et donc l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les livres dans l'apprentissage ou dans la recherche de tout étudiant à l'université. L'intelligence artificielle ne peut pas remplacer les autres sources pour la recherche de connaissances. Donc, l'intelligence artificielle, ce sont des programmations d'autant d'informations auxquelles on peut avoir accès, mais il faut aussi les mettre en doute, il faut les critiquer. Donc, il faut savoir que l'intelligence artificielle est un outil aussi très limité. Et donc, trop s'y habituer, n'avoir que ça comme lieu de connaissances ou lieu de recherches, est un approvisionnement qu'il faut décourager. Et donc, aux professeurs, c'est-à-dire, nous aussi, nous devons connaître cet outil parce que c'est un outil de notre temps. Notre métier nous exige à être de manière permanente dans la jeunesse, c'est-à-dire à s'informer, à ne pas vieillir, à être à notre temps. Et donc, on doit connaître cet outil, l'utiliser aussi, peut-être pour savoir bien détecter celui qui l'utilise et ça, on ne peut être capable que si nous aussi, on connaissons l'outil. Mais on doit s'en méfier. Le gouvernement doit mettre à la disposition de nos universités plus d'outils pour que l'intelligence artificielle ne soit pas le seul recours. Nous devons avoir des bibliothèques bien équipées. Ça, c'est le rôle de l'État. Nous devons avoir d'autres sources pour chercher l'intelligence ou la connaissance. Donc voilà ce que moi je peux dire de manière ramassée pour ce qui est de l'intelligence artificielle, et qui reste un outil qui ne peut jamais nous remplacer.
Professeur Bouissa Kinamula Jean Damasène, nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et mes salutations à tous ceux qui écoutent Radio Capi.
Selon des spécialistes, l'intelligence artificielle a de nombreuses conséquences sur l'éducation des enfants. Beaucoup d'entre eux ne fournissent plus d'efforts de réfléchir, se contentent de cette nouvelle technologie qui les fait à leur place. Il est donc important que chaque parent surveille son enfant lorsqu'il effectue les devoirs à la maison pour éviter qu'il ne recourt aux réponses élaborées et fournies par ce système. Alex Chamavou, enseignant à l'Institut de l'Avenir de Béni, IAB encourage les jeunes à faire bon usage de la technologie et d'éviter le copier-coller. Il en parle dans cet entretien avec Guylaine Kassassia.
Alex Chamavou, bonjour.
Oui, bonjour madame.
On parle d'intelligence artificielle. Est-ce une réalité au sein des écoles?
Oui, personnellement je peux dire que c'est une réalité parce que comme je donne les cours d'informatique ici à l'IAB, moi-même, je parviens à remarquer, lorsque je donne un travail à travailler à la maison, il y a de ces enfants qui ont des smartphones à la maison, des ordinateurs à la maison. Et lorsqu'ils présentent les copies, facilement, je remarque que cette personne a travaillé avec l'intelligence artificielle. Et donc, j'ai juste compris que ça commence à avoir d'ampleur aussi à l'école secondaire. Et pourtant, ça pouvait être un danger plus tard parce que ça ne favorise pas vraiment que les enfants travaillent d'eux-mêmes au biais de leur propre intelligence.
Comment savoir si l'élève travaille lui-même ou utilise l'intelligence artificielle pour réussir?
Oui, merci de la question. Par rapport à l'intelligence artificielle, une fois vous êtes devant une copie de l'élève, comme l'élève n'a pas d'expérience, lui est en train de recopier seulement toutes les réponses que l'intelligence artificielle a données. Et une fois vous prenez la copie, vous comparez avec quelqu'un qui a travaillé de soi, vous verrez la différence. Et la stratégie est très simple. Lorsque je prends la copie de l'élève qui a travaillé avec intelligence artificielle, je pose une question par rapport à ce travail qu'il a fait effectuer à la maison. Vous allez vous rendre compte que cet enfant ne connaît rien. Parce qu'il a eu cette source qui a jailli juste des réponses et l'enfant a eu le courage d'écrire sans même comprendre ce qu'il a fait. Par rapport à l'élève qui a travaillé de soi, il parvient quand même à retenir certains mots, certaines phrases. Et une fois vous lui posez la question, même sans sa propre copie, il peut répondre facilement parce qu'il a travaillé de lui-même.
Et donc, pour dire que c'est un danger?
Oui, oui. L'intelligence artificielle aujourd'hui, moi je prends ça comme un danger vraiment. C'est un danger parce que, donc avec l'intelligence artificielle, vous demandez juste un petit truc là, une question, et toute réponse va apparaître. Et si vous êtes copiste, vous allez seulement copier et ça passe. C'est un danger, bien sûr, parce que les enfants ne travaillent plus d'eux-mêmes. Et c'est regrettable si vraiment les enfants peuvent commencer à utiliser l'intelligence artificielle au niveau de l'école secondaire. C'est vraiment un danger.
Mais comment vous aussi, vous l'aviez utilisé?
Non, lorsque j'ai commencé à étudier l'université, je n'ai pas utilisé ça. J'ai connu l'intelligence artificielle après avoir terminé mes études pour la licence. C'est là que j'ai connu très bien l'intelligence artificielle. Mais quand j'essaie de comparer le monde actuel et quand moi j'étudiais, en tout cas je me rends compte que si j'utilisais aussi l'intelligence artificielle, peut-être le peu de bagages que je peux avoir aujourd'hui, je ne pouvais pas avoir ça. Parce qu'à l'époque, on pouvait travailler de soi, on part lire dans des bibliothèques, on fait des recherches par-ci, par-là. Mais actuellement, avec l'intelligence artificielle, on voit les gens sont en train de récupérer de n'importe quelle réponse par-ci, par-là, sans même focaliser l'attention sur ce qu'ils sont en train d'écrire. Et vraiment, c'est dangereux.
Et lorsque vous essayez de lire même les travaux des enfants, est-ce qu'il y a des citations?
Oui, exactement, il y a des citations. Comme j'ai dit, ce sont encore les enfants de l'école secondaire, ils ne savent pas quoi prendre, quoi laisser. Et lorsque l'intelligence artificielle propose des réponses, vous allez vous rendre compte qu'on met des citations là-bas, voire même les pages à consulter. Ce qui fait que l'enfant, quand il est en train de recopier, lui ne fait que prendre tout. Hein, tout il est en train de mettre là, et il part déposer, il ne sait pas que le professeur connaît que ça va être l'intelligence artificielle qui a travaillé cela.
Oui, Alex Chamavou, quelles précautions vous prenez pour limiter l'ampleur de cette application?
Oui, jusque-là, nous sommes encore à un mois et demi d'ouverture. Hein, et donc, je suis en train de constater encore les problèmes, mais je suis en train de penser comment faire parvenir ces dossiers au bureau pour que le bureau informe aux parents, ok, d'aider ses enfants de travailler d'eux-mêmes leurs devoirs à la maison, au lieu d'utiliser l'intelligence artificielle qui est en train de les détruire au fur et à mesure. Donc, je suis en train d'étudier encore les problèmes, mais je suis en train de compter aussi exposer les problèmes aux autorités scolaires pour qu'ils parviennent à montrer aux parents que l'usage de l'intelligence artificielle à leur niveau vraiment ne va pas leur permettre d'évoluer très bien.
Et vous-même, déjà en classe, qu'est-ce que vous pouvez faire à face de ces enfants-là qui présentent un travail du copier-coller, si on peut le dire comme ça?
Ce que je suis en train de faire, lorsque j'ai remarqué que cet élève a essayé de travailler avec intelligence artificielle, donc j'identifie d'abord toutes les copies. Donc je ne dis pas que d'abord tous les élèves sont en train de faire ça, il y a certains. Alors je vais identifier toutes les copies-là de ces gens que je vis, ils ont travaillé avec intelligence artificielle. Et moi, je leur pose maintenant des questions par rapport à ce même travail-là pour voir comment ils vont s'en sortir. Et vous allez vous rendre compte que déjà, il y aura une différence. L'enfant qui a travaillé de sa propre tête, il a fait des recherches à la maison, il a eu le temps de demander à des grands frères. Alors, et l'enfant qui a travaillé avec intelligence artificielle, les réactions par rapport à ces questions-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà une différence. Alors, nous prenons toujours des précautions et on parvient à corriger comme on nous a appris à l'école, comme on corrige comme des scientifiques, parce qu'il y a des réponses qu'on parvient à corriger vocalement, ok? Et sur papier aussi, c'est normal, j'applique et j'avance. Mais à l'air donnant des conseils aussi, les désavantages d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça touche à l'air mental et vraiment ça ne va pas leur permettre d'évoluer.
Peut-être pour finir, on peut penser que c'est ce qui est même à la base d'un recul chez certains enfants, parce que nous sommes en train de les voir, même après la sixième année, à l'université, ils sont moins intelligents, ils n'ont pas le même niveau que ceux d'avant.
Exactement, sauf que je ne saurais pas dire oui à 100%, parce qu'on peut avoir plusieurs phénomènes qui peuvent causer à ce que le niveau des enfants ne soit plus vraiment très efficace. Mais en tout cas, l'utilisation de l'intelligence artificielle en fait partie. Même à l'université, lorsqu'on parvient à avoir un smartphone dans lequel on va travailler sur l'intelligence artificielle, on n'a plus le temps d'aller fréquenter des laboratoires, des bibliothèques pour savoir davantage. Mais comme on a déjà notre ressource là, il y a un TP mathématiques, il y a un TP comptabilité, informatique, géo et autres choses. Je n'ai plus le temps de réfléchir à ceci. Je vois juste, j'écris là-bas, donnez-moi ceci. La réponse apparaît. Moi, je note, je pars déposer. Mais est-ce que je me suis concentré? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Alors, en tout cas, ça paralyserait. C'est déjà un sérieux problème pour la génération d'avenir.
Mais il y a un programme, un enfant, un ordinateur. Est-ce que ce n'est pas dans ce sens de mettre l'accent sur l'intelligence artificielle?
Bien sûr que le système est là. Je ne peux pas le nier, je ne peux pas refuser. C'est bon parce que ça suit aussi l'évolution du monde actuel où tout enfant, toute personne, tout scientifique doit savoir s'accoutumer à la machine, l'informatique et autres choses. Mais en parlant de cette question-là, je vais aussi donner un exemple. Le mathématicien avec la machine calculatrice. Donc c'est juste un outil pour aider ces mathématiciens à calculer. Mais c'est pas à dire que le mathématicien-là, toute sa tête doit être dans cet outil-là. Donc, ce qui veut dire que même si on initie les enfants et les ordinateurs, ou bien l'élève et l'ordinateur, ce n'est pas un problème. Et bien sûr, quand il utilise l'ordinateur ou bien un smartphone, là, il est en train de serrer vers l'intelligence artificielle. Voilà, c'est là que la phrase que j'ai stipulée en disant, il faut que le parent maintenant joue aussi un rôle. lorsqu'il y a un travail à faire à la maison, que les parents soient là en train d'assister l'enfant, que l'enfant ne travaille pas avec intelligence artificielle. Et si les parents vont accepter que l'enfant travaille avec ça, ok, il sera en train d'endommager la tête de son enfant. Et là, ça ne sera plus le problème de la personne qui a initié cela, parce que le monde actuel, il faut vraiment que les enfants s'initient à l'informatique. Et c'est comme ça que je peux répondre là-dessus. C'est une belle initiative, mais vraiment, ça ne peut pas, ça ne doit pas maintenant nous pousser à nous affaiblir davantage.
Alex et Chamavou, nous vous remercions.
Merci aussi.
L'intelligence artificielle est dangereuse pour les jeunes. Ça les rend fainéants et paresseux. Ces mots viennent de Madame Fidelice, la informaticienne à Radio Capi. Madame Fidelice répond aux questions de Stanislas Diomé.
Madame Fideline Tchila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes informaticienne à Radio Capi et Banao Capi traite aujourd'hui un sujet sur l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Pouvez-vous nous expliquer à des mots très simples c'est quoi l'intelligence artificielle?
Bon, ce sont des logiciels conçus par l'homme, qu'on a mis en place des algorithmes, disons des fonctions qu'on met, nous les informaticiens, nous faisons des algorithmes qu'on met en place pour permettre aux ordinateurs d'agir comme des personnes, d'agir, de réfléchir comme des personnes. C'est ça l'intelligence artificielle.
Et les jeunes sont devenus trop accros à une application nommée ChatGPT. Mm-hmm. Connaissez-vous cette application?
Bon, je ne l'ai pas utilisée, mais j'attends toujours parler de ça. J'avais lu quand même sur Internet le mode de fonctionnement de ces logiciels. C'est un logiciel aussi qu'on utilise pour le traitement des langages naturels par la machine. Ça aide les étudiants à l'utiliser à la place de l'homme, parce que on parle de le raisonnement de l'ordinateur à la place de l'homme. Alors, les étudiants, ils utilisent ça plus pour les exercices, les TP, faire des recherches. Ça aide pour la rapidité des recherches. On peut prendre d'autres logiciels qui sont là. Par exemple, avec ça, il y a des formules utilisées. Au lieu d'aller faire ça sur un papier, vous prenez ça et ils vous donnent directement des réponses sur ça.
Et les utilisateurs de cette application affirment qu'à travers ChatGPT, ils peuvent avoir des réponses au TP, comme vous venez de le dire, et même effectuer leur travail de fin de cycle sans faire de recherche ou se déplacer. Cela est-il vrai?
Des fois, oui, mais on ne trouve pas le tout à l'intérieur parce qu'il faut mettre ces documents dans la base de recherche. Et s'ils les retrouvent, ils vous donnent. Je vois, c'est un truc que ça amène un peu de la paresse du côté des étudiants, parce que nos étudiants d'aujourd'hui n'ont plus l'habitude de faire des recherches personnelles comme c'était avant. Maintenant, c'est tout le monde qui se réfère aux ordinateurs, plus aux logiciels de recherche comme ça, comme celui-ci de l'intelligence artificielle. C'est tout le monde qui utilise l'intelligence artificielle comme maintenant, parce qu'on a une facilité de recherche, une facilité de travail, ça nous facilite la rapidité de travail, qu'avant il fallait lire. Comme nous avons maintenant, on est devenu fainéant à la lecture. Et les étudiants préfèrent utiliser ça au lieu de faire la lecture, de faire des recherches personnelles.
Très bien. Dans ce cas, quels sont les avantages d'utiliser l'intelligence artificielle?
L'avantage, il y a quelques avantages qu'on peut lire ici. Ça aide à générer des idées et à recueillir des informations pour les devoirs. Ça aide. Ça aide aussi par rapport au temps, parce que avant, vous pouvez aller dans des bibliothèques, prendre des livres, le temps de lire. Or qu'avec ça, vous tapez, vous allez sur ces logiciels-là, vous trouvez directement les réponses. Et le temps est rétréci. Au lieu d'avoir beaucoup, vous pouvez faire beaucoup de jours pour travailler. Mais là, on rétrécit le temps, vous travaillez dans peu de temps ce que vous êtes en train de faire.
Et comment faire bon usage de l'intelligence artificielle sans tomber dans l'abus?
Chez nous ici, en RDC, c'est un peu difficile. Ça, je peux le dire, c'est un peu difficile parce que notre gouvernement ne contrôle pas. Je ne sais pas s'il y a un contrôle sur ça, sur l'utilisation des logiciels, des appareils et tout ça. Prenons le cas, je vais donner un exemple de cas de YouTube. Regardons l'utilisation de YouTube et de TikTok. Il y a de n'importe quoi à l'intérieur. il y a de n'importe quoi. Même avec l'intelligence artificielle. On devient fainéant, nos étudiants deviennent fainéants. Et quand nous amenons ça, il y a plus du plagiat dans des travaux des étudiants que ce qui est fait personnellement par l'étudiant lui-même. On n'a plus cette envie-là de curiosité, cette envie-là de recherche, on n'a plus cette envie-là. Et comme nous savons que tout se trouve maintenant sur Internet, se trouve sur les ordis. Donc, si j'ai besoin de quelque chose, j'y vais dans tel logiciel, je vais prendre ça, je vais faire ça. Je peux donner un exemple. Il y a un petit logiciel de mathématiques que les enfants de l'école primaire des humanités utilisent. C'est maths quoi là-bas? Il faut scanner, il peut prendre son cahier, il ouvre la page de l'exercice. Vous prenez votre téléphone, vous scannez la page et directement le logiciel. C'est un logiciel aussi de l'intelligence artificielle. J'ai oublié le nom de ce logiciel parce que ma fille, des fois, utilise ça. J'avais désinstallé sur sa machine, je lui ai demandé de faire les calculs elle-même sur son papier. Et vous scannez la page et le logiciel
résout
l'exercice dans moins d'une minute et vous avez la réponse. Et ma fille faisait ça. Et après, quand vous lui posez des questions, qu'elle vous explique l'étape, quelle étape elle a fait pour avoir la réponse, elle n'arrive pas à vous expliquer. Donc, ça rend les étudiants paresseux et ça, les gens perdent de connaissances sur ce qu'ils devaient apprendre. On n'apprend plus rien. C'est ça l'inconvénient de ces utilisations de ces logiciels-là.
Est-ce que l'intelligence artificielle peut donner de fausses réponses?
C'est un peu difficile.
Il n'y a pas un mécanisme qui peut détecter que ça relève de l'intelligence artificielle et ça de l'intelligence naturelle.
Bon, ce sont des logiciels que je n'ai pas utilisés tellement, mais j'ai vu ça avec ma fille. Vous voyez le chemin mathématique qu'il donne. C'est réel, c'est ce que nous utilisons, c'est ce qu'on faisait. Parce que moi, j'ai fait les maths à l'UNIKIN. Quand on vous donne une formule, on vous dit des développer cette formule-là, les schémas que vous utilisez, c'est parmi les schémas que nous on utilisait manuellement.
Oui.
Parce que les logiciels, c'est quoi? Ce sont des algorithmes faits par l'homme et programmés qu'on a mis sur une machine. Ce sont des logiciels, ce sont des algorithmes. Algorithmes, c'est comment? Ce sont des formules, des schémas qu'on fait. Je vais vous donner un exemple simple d'un algorithme. De chaque mouvement d'une personne, prenons par exemple une maman qui fait l'omelette. Ça, c'est le premier algorithme qu'on m'avait donné en premier graduat. On a dit de faire l'algorithme de quelqu'un qui veut faire l'omelette. Nous voyons les étapes qui se passent pour faire l'omelette. Pour faire l'omelette, on fait quoi? On casse les œufs. Après avoir cassé les œufs, on bat les œufs, on met du sel, on saupoudre avec un peu d'épices, on met l'huile au feu, on fait l'omelette, on dresse. Alors, on doit faire cet algorithme étape par étape. Nous écrivons maintenant cette étape-là. À telle étape, on bat les yeux, nous écrivons. Et à cette étape, on fait ça. Et après, on grille les yeux et on serre. Et si c'est une boucle, nous mettons les scripts de boucle. Et c'est répétitif. Si ce n'est pas une boucle, on arrête, on met le point. C'est ça l'algorithme. Okay. C'est ce processus d'un événement, processus d'une idée. C'est ça, c'est ce qu'on met. Ce sont des algorithmes. Alors, pour la mathématique, par exemple, on dit 1 plus 1 est égal à 1. En mathématiques, on va nous demander de montrer 1 plus 1 est égal à 1. Donc, vous allez développer cette formule-là jusqu'à démontrer que 1 plus 1 est égal à 1, ou bien 1 plus 1 est égal à 2, ou bien 1 moins 1 est égal à 0. Vous devez démontrer ça. Vous devez décortiquer des formules sur ça. C'est ces formules-là, nous mettons sous forme d'algorithme et nous programmons, nous faisons une programmation, on met dans l'ordinateur.
Et ça, on appelle ça logiciel.
C'est ça, les logiciels.
Quel message pouvez-vous donner aux jeunes en ce qui concerne l'utilisation de l'application ChatGPT ou du logiciel intelligence artificielle?
Bon, ce que je peux donner comme conseil aujourd'hui, ne pas oublier de lire et de faire la recherche de lecture, même s'il y a des logiciels, parce que ça rend les gens fainéants et c'est plus les machines qui travaillent maintenant à la place de l'homme. Tôt ou tard, on n'aura plus besoin des humains, on va commencer à utiliser la machine et il y aura plus de chômeurs et que les gens voudront maintenant utiliser les machines, les logiciels là, pour faciliter nos tâches à nous, faciliter nos problèmes. Ce qu'on peut dire aux jeunes, c'est les encourager dans la lecture, dans la recherche, de les encourager à travailler. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ne travaillent pas. Mais avant de faire la pratique, mm-hmm. il faut avoir une connaissance théorique de quelque chose.
Madame Fideli Chila, je rappelle que vous êtes informaticienne à Radio Capi.
Ouais.
Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Je vous en prie, papa.
C'est par cet entretien que nous bouclons ce numéro du magazine Bano Capi du jour. Nous avons parlé de l'application ChatGPT qui utilise l'intelligence artificielle. Quels risques pour les jeunes? Les avantages et désavantages de l'intelligence artificielle en milieu scolaire et dans la vie quotidienne de jeunes? Ce magazine est à réécouter sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net ou sur la page Facebook Bano Capi. Toute l'équipe était heureuse de vous proposer ce magazine que j'espère vous a plu. Je vous laisse en compagnie de Stanislas Diomi qui anime l'antenne soir et on se retrouve la semaine prochaine.